France Musique.
À peine le temps de le dire, il est déjà 16h01, hein, comme quoi le temps passe. Notre disque de légende aujourd'hui, eh bien, ce sera aussi l'œuvre du mois de Diapason, mois de mai. Cette œuvre du mois, c'est Orff, c'est Carmina Burana, dans la version d'Eugen Jochum.
Thank you.
Un extrait des Carmina Burana de Karl Orff, version Eugen Jochum en 1967. C'est l'œuvre du mois, c'est Carmina Burana, du diapason du mois de mai. Vous avez l'occasion, en quatre pages, histoire, interprétation, discographie comparée, tout ça sous la plume de Benoît Fauché. On apprend plein de choses à l'occasion. Bon, entre autres, évidemment, sur l'œuvre elle-même et sur Karl Orff. Je sais pas si on l'apprend, mais on le savait quand même que Karl Orff, sans avoir été membre du parti nazi, était quand même un proche du régime. Il honora, par exemple, une commande pour un songe d'une nuit d'été, dont la seule fonction était d'oblitérer définitivement le nom de Félix Mendelssohn. Ça fait que l'œuvre fut un peu marquée par ce sale souvenir-là, pour beaucoup de musiciens et pour beaucoup de mélomanes aussi, mais pas pour le grand public qui la plébiscita littéralement, cette œuvre, les Carmina Burana, surtout après l'Excalibur de John Borman, côté interprétation et interprétation comparée. Eh bien, ce qui arrive en tête pour Benoît Fauché, c'est ce qu'on vient d'entendre là, la version Eugen Jochum en 1967. On comprend pourquoi, elle est dynamique. Elle est aussi supervisée par le compositeur, hein, Karl Orff, qui était encore vivant à cette époque-là. Et puis, elle bénéficie aussi d'un trio de chanteurs formidables, Gerhard Stoltz, Dietrich Fischer-Dieskau ou encore Gundula Jenowicz, qu'on va entendre ici juste avant le O Fortuna Terminal. Lo Fortuna qui referme les Carmina Burana de Karl Orff, version Eugen Jochum 1967, avec, entre autres, Gundula Janowitz, Dietrich Fischer-Dieskau, qu'on entendait tous les deux ici, le chœur et l'orchestre du Deutsche Oper de Berlin. C'était paru à l'époque chez Deutsche Grammophon, et c'était pour aujourd'hui notre disque de légende.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
Je vous rappelle que nous feuilletons aujourd'hui le diapason du mois de mai avec plein de choses dedans. La couverture pour Véronique Gens, les diapasons d'or bien sûr. Oh, ben il y en a quelques-uns, une belle flopée et de classe quand même. Le sens des couleurs magnifiques du pianiste Víkingur Ólafsson dans cette ondine, extrait du deuxième livre des préludes de Claude Debussy. Cet extrait aussi du dernier disque de Víkingur Ólafsson chez Deutsche Grammophon. Ça vient de paraître, ça a obtenu un diapason d'or du mois de mai largement mérité au programme Debussy et Rameau. Alors ça semble évident, on connaît bien le lien entre les deux. En tout cas, le lien que Debussy a voulu construire avec la musique de Rameau, son auguste prédécesseur. Enfin, on se demande parfois à quoi ça tient dans son hommage à Rameau. On ne sait pas trop finalement ce que Debussy nous dit de ce qu'il pouvait aimer là-dedans, sinon peut-être la nostalgie d'un temps ancien. Ce que souligne ici Víkingur Ólafsson, c'est qu'il y a ce mélange de précision, de commun, d'exactitude même entre les deux. Le délié dans le pianisme lui-même, ce mélange de légèreté, de variété des touchés, et puis de lumière. Et ça, la lumière, un homme du Nord, il sait faire. Thank you. qu'il le prononce comme ça, on se dit que Víkingur Ólafsson doit parler le français, c'est pas possible. C'était les tendres plaintes et puis les tourbillons de Jean-Philippe Rameau, joué donc au piano par ce pianiste islandais Víkingur Ólafsson, qui a fait vraiment des prodiges au disque ces dernières années, en particulier avec ce dernier volume autour de Debussy et Rameau. Vous allez me dire, Rameau au piano, c'est pas une première non plus. Non, mais il faut trouver vraiment sa manière de le faire, et lui a trouvé véritablement. Il y a de la volubilité, je sais pas si vous avez entendu avec quelle légèreté il arrive à faire les ornementations, enfin rien que techniquement au piano, c'est admirable. Et puis en plus, il nous propose des découvertes, alors ça ne sera pas pour Rameau, mais en revenant à Claude Debussy, ce prélude de la Damoiselle élue, où on se dit que Debussy se souvient de son ami Erik Satie. C'est une petite merveille cette pièce, hein, très inattendue, de Claude Debussy, le prélude à la Damoiselle élue. C'était joué au piano par Víkingur Ólafsson, le disque est absolument superbe, c'est du beau piano, mais qu'est-ce que c'est beau, enfin, pas seulement du beau piano, en plus vous l'avez entendu, ça nous dit quelque chose quoi. Ólafsson, son dernier disque donc paru chez Deutsche Grammophon, Debussy et Rameau au programme.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
Alors encore un diapason d'or pour le disque qui suit. L'artiste en question, je vous en ai parlé maintes fois depuis le début de la saison, mais qu'est-ce que vous voulez, il nous sort à peu près un disque tous les deux mois, et à chaque fois c'est une merveille. Je vais parler de Giovanni Antonini. Vous savez, il y a un certain moment dans un parcours d'artiste, il y a des moments où la créativité est un peu plus faible, puis des moments où elle est un peu plus forte, où la créativité, l'inventivité sont au sommet. Ben, j'ai l'impression que c'est ce que doit être en train de vivre aujourd'hui Giovanni Antonini avec son ensemble, Il Giardino Armonico. Si je vous en ai parlé ces derniers temps, c'est aussi parce qu'ils se sont lancés dans une intégrale des symphonies de Haydn qui doit les porter jusqu'à 2032. Et c'est déjà superbe les quelques disques qu'ils nous ont laissés sur tout cela. Et puis voilà, bah, au milieu de ce parcours-là, ils nous font un disque autour d'Antonio Vivaldi et de ses concertos à flûte à bec très visités. Bah, ça n'empêche pas notre ami Antonini de faire là-dedans d'absolues merveilles.
Thank you.
Les trois mouvements d'un concerto pour flûte à bec en ut majeur, Riom 444 d'Antonio Vivaldi, c'était joué par Giovanni Antonini. À la flûte, il dirigeait en même temps son Giardino Armonico. Je signale que le premier violon est aujourd'hui, et pour ce disque-là, Enrico Onofri, qui n'est pas n'importe qui non plus. Bon, on ne pensait pas qu'on pouvait un jour entendre des sons tirés d'un simple flutio, des sons comme ceux qu'on a eu là. Il y a encore une fois, et je reprends le même terme que tout à l'heure, chez Giovanni Antonini, une capacité à parler, à être volubile en musique avec cet instrument, qui est absolument sidérant, il est sidérant d'activité, d'inventivité, enfin bref. Giovanni Antonini est un des grands musiciens du moment, Il Giardino Armonico, l'un des grands ensembles baroques, et ce disque Vivaldi, des concertos pour flûte, une nouveauté du label Alpha qui m'a absolument ravi. Diapason d'or, donc, de ce mois de mai 2020. Les autres diapasons d'or, on ne va pas tous les passer, bien évidemment, et puis surtout, je causerai de certains d'entre eux dans des émissions prochaines. Il y a par exemple les variations de Beethoven par Selim Mazari, il y a un concerto de Thomas Hadès, dirigé par lui-même, où il a la chance d'avoir un grand pianiste soliste à ses côtés, Kirill Gerstein. Il y a encore Monsieur Blanc-Crochet, une sorte d'hommage à ce compositeur ancien par Pierre Gallon. Et puis, de lui coupera aussi avec le duo Coloquinte. Mais enfin, le disque peut-être diapason d'or le plus surprenant, c'est celui qui est consacré à la musique de Jean Krah. Entre autres, cette flûte de Pan, dont on n'a malheureusement pas le temps d'entendre un extrait. On ne va pas se priver, en revanche, pour ce quintet avec piano, qui date de 1922 et qui nous montre un Jean Krah sachant écrire la musique de chambre comme personne. Thank you. C'était le final ardent et fier, est-il dit, du quintet pour piano et quatuor à cordes de Jean Krah, Jean-Claude au piano, l'ensemble Oxalis. Ils ont obtenu un diapason d'or pour ce mois de mai, ainsi s'achève notre évocation du magazine Diapason pour mai 2020. N'hésitez pas à aller l'acheter, non seulement parce qu'il y a plein de belles choses dedans, ensuite parce que les mensuels, ça continue avec parfois quelques difficultés. Je vous signale d'ailleurs que Diapason ne sortira pas au mois de juin, donc profitez bien de ce numéro-là. Et puis on poursuit notre parcours à travers les mensuels musicaux, mercredi avec Opéra Magazine et vendredi avec Classica.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
Et puis je voulais refermer cette émission avec une évocation de Michel Piccoli, dont on a appris la disparition juste avant le début de cette émission. Fameux comédien, acteur qu'on adorait absolument, qu'on a vu il n'y a pas si longtemps que ça, encore il y a quelques années. Il jouait pour Nanni Moretti dans Habemus Papam, où il était un pape absolument irrésistible. Je voulais qu'on l'écoute chanter peut-être, si possible, Michel Piccoli. Il n'y a pas beaucoup de témoignages de cela, mais il y en a un au moins. On a tous cela dans l'oreille. Pour les choses de la vie de Claude Sauté en 1970, sur des paroles de Jean-Loup Dabadie, la musique de Philippe Sard pour cette chanson d'Hélène, Michel Piccoli, qui était en duo avec Romy Schneider.
Ce soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre. Le soleil
Chanson d'Hélène, extrait des choses de la vie de Claude Sauté, 1970, c'était avec la voix de Romy Schneider, la voix chantée, et puis l'autre voix parlée, celle de Michel Piccoli, dont on reparlera bien évidemment dans les jours qui viennent sur France Musique et sur les antennes de Radio France. Un grand merci à Flora Sternadel, Max James et Alexandre Billard. Très bonne fin de journée à tous. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Aurélie Moreau.
À réécouter sur francemusique.fr.